Bonjour à toutes et à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur nous. Nous sommes là pour le glorifier, n'est-ce pas? Les frères, il a commencé en nous disant, est-ce que vous avez la paix? Est-ce que vous avez la paix? Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein? Hein, voilà. Et j'aimerais commencer d'une façon pareille que Hugues, mais à vous demander, mais est-ce que vous êtes heureux? Heureux, hein? Drôle de question pour un début de message, hein? C'est quelque chose que le Seigneur, il a en réserve des choses pour nous. Peut-être que vous ne l'êtes pas vraiment, hein? Ou pas toujours été, mais on le souhaite, hein? N'est-ce pas? Qui c'est qui ne désire pas être heureux? Et Dieu, il veut cela, il désire cela, hein? Vous savez, dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a 7 fois le mot « heureux ». Et il n'y a pas que dans l'Apocalypse. Hein. Par exemple, on peut le voir dans les psaumes 1 et 2, chapitre 1, les psaumes 1, vous connaissez tous le verset 1 et 2 qu'il dit « Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Heureux. » Et on continue aussi, psaume 32. « Heureux ceux dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. » Psaume 33 aussi. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qui choisit comme son héritage. Psaume 40. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Hein? Heureux. Et on a vu aussi dans les psaumes qui nous a lu le frère Hugues, il y a deux fois ces mots heureux. Heureux. Sans oublier ce qu'on est en train d'étudier le mercredi, les béatitudes du Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Heureux le miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Il y a encore une quantité de versets, hein. C'est pour vous dire qu'il y a le souhait de Dieu, c'est que ses enfants y soient heureux. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Êtes-vous heureux? Sommes-nous heureux? Parce que je suis un enfant de Dieu, je me mets dedans. Et justement, dans le livre de l'Apocalypse, il y a encore 7 versets qui parlent, qui commencent avec ces mots-là. Heureux. Hein? Et donc, nous allons un peu les éplucher, car l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Hein? Et le Seigneur, il nous montre toutes ces choses-là pour nous dire, voilà ce que je souhaite pour mes enfants. Voilà ce qu'il faut faire pour être heureux. Et si vous n'êtes pas heureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Voilà pourquoi nous allons regarder tous ces 7 versets dans l'Apocalypse et résumer le bonheur qu'être heureux. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux? Encore une fois, Dieu, il n'a pas la même pensée que nous. Hein? Pour nous, être heureux, avoir des voitures, de l'argent, une belle maison, un bon compte en banque. Dieu ne parle pas du tout de ces choses-là. Si on veut être heureux, il faut suivre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Car c'est lui qui donne cette vie bénie. Encore une fois, heureux, c'est le mot makarios, en grec, que ça signifie béni. Heureux, béni. Hein? Et regardons le premier endroit où il se trouve ce mot. Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Il dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Et il y a aussi 22, verset 7. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Quelles sont les choses que le Seigneur il nous donne à nous pour être heureux? Trois choses, qui les trois mises ensemble, ils définissent une seule et unique chose. Premièrement, qui c'est qui est heureux? C'est lui qui lit, c'est lui qui écoute, c'est lui qui garde. Et toutes ces trois choses ensemble, le résultat, c'est celui qui obéit. Quel est le moyen d'être heureux? Celui qui lit, celui qui écoute, celui qui garde, et celui qui obéit à quoi? À ce que moi je dis, à ce que les hommes le disent? Non, à ce que Dieu nous dit dans sa parole. À ce que Dieu nous dit dans sa parole. Voilà pourquoi le Seigneur il nous donne toutes ces choses-là. Hein, et nous devons les rendre. Et alors, je vais vous poser une question. Est-ce que ce moment de lecture, d'écoute de cette parole, il remue votre cœur? Est-ce que vous attendez les moments où vous allez lire, vous allez écouter? Et vous allez automatiquement obéir à ce que Dieu dit dans la parole. Ou sinon, vous dites, oh, c'est une lecture comme une autre, je peux m'en passer. Si vous avez ces pensées-là, vous ne serez jamais heureux. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous le dit. Que faut-il faire pour être heureux? C'est lui qui garde, qui écoute, qui lit, et obéit à cette parole. C'est là, c'est alors que nous serons heureux. Il y a un verset dans Proverbe, regardez, verset 29, le verset 18. Voilà ce qu'il dit. Quand il n'y a pas de révélation, et qui dit révélation, c'est dans notre cas, c'est la Bible. S'il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, ou se laisse aller, ou il est sans frein. Mais s'il respecte la loi, s'il respecte la parole, il est heureux. Car si nous n'étions pas en possession de la parole de Dieu, nous nous comporterions comme les autres qui sont dans le monde. Et sûrement, si nous n'avions pas mis notre confiance dans cette parole, nous ne serions pas ici. Nous serions en train de courir, faire du footing, ou aller visiter les marchés, ou faire autre chose, penser pour rien à Dieu, mais faire nos propres affaires. Mais Dieu, il nous a laissé ces révélations. Et il nous dit, tu veux être heureux? Alors, il faut écouter, lire, obéir à cette parole. Car c'est la seule façon par laquelle nous pouvons être heureux. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous mettez en pratique ces choses-là? Dieu, il vous dit, tu es heureux. Est-ce que tu es heureux? Quelqu'un, il vous demande, est-ce que tu es heureux? Oui, ça va. J'ai mon travail, j'ai un bon compte en banque, j'ai une bonne maison, je fréquente la haute société. Ça, ce n'est pas le bonheur selon Dieu. Mais le bonheur selon Dieu, c'est suivre et écouter sa parole. C'est ça que le Seigneur il nous dit. Le deuxième verset, il se trouve dans chapitre 14, le verset 3, Apocalypse, on est en Apocalypse, 14, verset 3. Voilà ce qu'il dit. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et c'est de maintenant. Oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Deuxième façon d'être heureux, le Seigneur, il nous le dit, ceux qui meurent dans le Seigneur. 14 ou 13. Qu'est-ce que j'ai dit? 3? Pardon. 13. Comment on est heureux? Ceux qui meurent dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait, celui qui meurt dans le Seigneur? Il se repose de ses œuvres. Ces versets-là, on le trouve très souvent dans les cartes de condoléances ou sur les tombes des chrétiens. Hein? Parce que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Hein? Pourquoi est-ce qu'on voit ces choses-là? Parce que c'est la réalité. Si nous avons le Seigneur dans notre cœur, notre vraie vie, il commence. Et nous sommes heureux. Bien sûr, la mort, ce n'est pas quelque chose de très gai. Pourquoi? Parce qu'il y a cette séparation d'avec ceux qu'on aime ici-bas. Mais il nous dit heureux. Pourquoi? Parce que nous allons rejoindre notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous sommes heureux. Encore une fois, c'est un verset que je répète toujours. Jérémie, il nous dit, j'ai de l'avenir pour toi. Quel est cet avenir? D'être avec Dieu. C'est de partager tout ce que Dieu il a préparé d'avance pour que nous puissions vivre toutes ces choses-là. Ceux qui meurent du Seigneur, la Bible nous dit, ils sont heureux. Hein? Signifie, c'est les rendez-vous avec le Seigneur. Paul, vous en souvenez, Paul, ce qu'il a dit? Il a dit, Christ est ma vie. Et mourir, mais en gain. Non, Paul n'est pas masochiste. Mais Paul, il avait compris ce que Dieu il a en réserve pour lui. Et cela, regardez dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, pour voir ce que Paul, il pensait de toutes ces choses-là. Philippiens 1, 22, à partir du verset 22. Voilà ce qu'il dit. Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Qui c'est qui pense aujourd'hui que mourir c'est un gain? Dites ça autour de vous dans le monde. Il vous dira, mais pour nous chrétiens, c'est que Paul disait, mourir pour moi c'est un gain. Qu'est-ce que c'est qu'il y gagne? Continuons. Il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vis dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer, mais je suis pressé de deux côtés. Pressé de mourir, vous vous rendez compte? Est-ce que nous le sommes pressés de mourir? Est-ce que nous le sommes pressés de... Paul il dit, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Quelqu'un dit, ah, je préfère rester ici, hein, que mourir. Paul dit, ce qui est de meilleur, ce qui est de meilleur. Il dit, mais à cause de vous, c'est-à-dire l'église des Philippiens, des Philippes, parce qu'il devait accomplir l'œuvre qu'il lui a donnée, apporter l'évangile. Et voilà pourquoi, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Oui, ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. Pourquoi est-ce que des fois, lorsqu'on est dans la peine, dans la souffrance, dans la maladie atroce, on demande, Seigneur, fais-moi mourir, interviens, mets fin à cette souffrance. Et le Seigneur, il continue. Pourquoi il fait ça? Parce que peut-être notre œuvre n'est pas terminée. Notre œuvre n'est pas terminée. Il y a une grande, je crois qu'elle est suédoise, qu'elle était en train de se baigner dans une piscine et elle s'est descendue de la piscine et il a touché les fonds avec sa tête. Et après cet accident, il ne pouvait plus rien bouger, sauf les yeux. Mais il était chrétien. Alors on peut se demander, mais pourquoi le Seigneur il l'a gardé comme ça? Eh bien, cette femme, il donne son témoignage partout dans le monde. C'est pire qu'un légume, hein? Il bouge juste les yeux. Mais il exprime sa pensée et il dit, voilà, je suis dans cet état, mais je suis heureuse. Je suis heureuse. C'est comme le petit bonhomme, comment s'appelle Roland, qu'il n'a pas de bras, il a des pieds tout petits là. Voilà. Cet homme-là, on le voit et on peut se dire, mais ce n'est pas possible ça. Et pourtant, vous parlez avec lui, vous lisez ses livres, et il te dit, mais je suis heureux d'être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a pu donner le témoignage pour son Seigneur et pour son Sauveur. Et encore, mourir m'est un gain. Hein? Heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur. Encore une fois, je vous dis, la mort, ce n'est pas quelque chose de gai. Mais pour ceux qui meurent en Christ, c'est le retrouvaille avec le Seigneur. C'est de retrouver tous ceux qu'on a connus, qui sont chrétiens. Voir à tous les apôtres, voir à tous les gens qu'ils ont prêché la parole, les grands hommes, nous allons les voir. Et surtout, nous allons voir Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà pourquoi nous qui sommes des chrétiens, lorsque quelqu'un meurt dans notre famille ou en quelqu'un qu'on connaît, bien sûr qu'on est dans la tristesse, mais nous savons qu'un jour nous allons le retrouver. Nous savons où est-ce qu'il va. Et nous savons qu'un jour nous allons le rejoindre. Et avec lui et avec tous les chrétiens du monde entier, nous sommes là pour glorifier et pour adorer celui qui nous a sauvés, Jésus-Christ. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Ils font quoi, ceux qui meurent dans le Seigneur? Il nous le dit ça, la suite. Ils se reposent de ses œuvres. Plus de travail, plus d'œuvres, plus de péchés, plus de tentations. Ce que nous avons fait, le Seigneur, il va nous rétribuer. Et nous vivrons éternellement dans le repos. Il y a un verset dans l'Épître aux Hébreux chapitre 4. Regardez ce qu'il nous dit ce verset-là. Il nous dit, il reste donc un repos de sabbat. Il reste un repos. Aujourd'hui, on peut se reposer dans le Seigneur, bien sûr. Mais il reste un repos. C'est celui que le Seigneur il donne à tous ceux qui lui ont fait confiance. Pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité. Plus d'activité. Tout comme Dieu se reposait de la sienne. Vous savez, le Seigneur après 6 jours de création, le huitième, il se reposait. Voilà. Tranquille. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Si encore nous ne l'avons pas fait, dans ce repos, dans le Seigneur, nous pouvons y rentrer tout de suite, par la foi. Mais nous y entrerons un jour, et là, ça va être le repos total. Plus rien, il pourra nous toucher. Nous serons là à l'abri de toute chose. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Voilà qui c'est les gens heureux. Ceux qui meurent dans le Seigneur, en résultat, ils auront un repos éternel. Et il y a un autre verset, chapitre 20, le verset 6, toujours dans Apocalypse, hein. Chapitre, voilà, 26, et il dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. » Qu'est-ce que c'est que cette première résurrection? C'est ça que le... On peut mettre cette première résurrection en deux endroits. Le premier endroit, c'est La première résurrection, c'est lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, on passe par la nouvelle naissance. Ça, c'est la première résurrection. Pourquoi? Parce que sans Christ, nous étions morts. Et lorsqu'on accepte Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça la première résurrection, la nouvelle naissance. C'est que lorsqu'on est de nouveau, toute notre vie, il doit être changée. Toute notre vie, il doit être modifiée. Et encore une fois, si notre vie est modifiée, c'est parce que Dieu, il est là. Dieu, il est notre centre. Dieu, il est celui en qui nous mettons notre confiance. C'est lui qui nous donne la possibilité de ne plus faire les choses que nous faisions auparavant. Pourquoi? Parce que si on a Jésus-Christ, nous avons été libérés du pouvoir de l'esclavage, pouvoir du péché, pouvoir de Satan. Tous ces gens-là, Satan, le monde, le péché, ils n'ont plus aucun pouvoir sur nous. Si nous avons Jésus-Christ, nous pouvons dire non à toutes ces choses-là. Nous pouvons dire non à toutes ces choses-là. Tandis qu'avant que nous ayons Jésus-Christ, nous l'écoutions bien, tous ces gens-là. Mais aujourd'hui, nous sommes passés par cette première résurrection, et c'est à nous de la vivre à fond. Le Seigneur, première résurrection, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création. C'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui fait tout. Nicodème, il avait dit, le Seigneur, il lui avait dit, il faut que tu naisses de nouveau. Mais comment est-ce que je nais de nouveau? Il a dit, toi que tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses-là. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent docteurs de la loi. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, naître de nouveau. Naître de nouveau, encore une fois, c'est avoir une vie tout à fait différente de celle que nous avions auparavant. Une vie différente de celle que le monde a, des gens qui nous entourent. On en a parlé ce matin aussi. Être chrétien, c'est savoir l'affirmer, c'est savoir le vivre. Et c'est savoir aussi, comme on en a parlé mercredi, recevoir sur nous l'opprobre. Être délaissé, être haï, subir toutes sortes que le monde il a contre nous. Le Seigneur, il a dit, ils m'ont haï, ils m'ont persécuté, et vous serez haï, vous passerez par des tribulations. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Ça, c'est la première résurrection, celui qui accepte Jésus-Christ. Et ça peut être aussi la deuxième, c'est la première résurrection. Lorsque le Seigneur Jésus, il va revenir ici-bas, il va ressusciter le corps de tous ceux qui sont morts. Et les vivants, ils seront transformés. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous donne toutes ces choses pour être heureux. Nous passerons par la première résurrection, la résurrection du corps. Et la conséquence de cela, de ce passage de la mort à la vie, il nous est dit, nous sommes une prêtrise pour Dieu et pour Christ. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des gens qui mettent en relation les gens tout autour de nous avec les seigneurs. C'est à nous d'annoncer cette bonne nouvelle. Si nous le faisons, nous sommes heureux, comme elle a dit la sœur Sophie, hein, si elle fait tout ça, c'est pas pour qu'elle puisse s'élever, hein, mais c'est pour les gens, ils puissent savoir qu'il y a un Dieu qui les aime. Car c'est cela notre rôle. Et qui c'est qui fait cela, le prêtre? C'est les Lévis qui enseignaient la parole. Et le Seigneur, il a donné à nous toutes ces choses-là. Et si nous faisons cela, nous sommes heureux. Alors, pas seulement nous passerons la première résurrection, nous sommes des prêtres, mais en plus, il nous est dit que nous allons régner avec lui. Avez-vous jamais pensé qu'un jour, vous allez régner? C'est ça que le Seigneur est juste cette pensée-là. Il devrait nous rendre heureux. Tu veux me faire du mal? Fais-moi du mal. Mais je sais qu'un jour, je vais régner avec le Seigneur. Je vais être avec mon Seigneur. C'est pour ça que je suis heureux. À Polycarpe, hein, dans le deuxième siècle après Jésus-Christ, hein, il avait demandé d'abjurer Jésus-Christ. Il a répondu, ça fait 80 ans que je suis avec le Seigneur et ce n'est pas maintenant que je vais y renoncer. Lui aussi, il voyait le Seigneur. Il voyait son entrée dans la gloire. Un peu comme Abraham. Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, va à ce pays-là, je te le donnerai, tu seras grand, et tout ça. Lorsqu'il est rentré dans le pays, il nous a dit qu'il avait rien comme possession. Mais ses yeux, ils étaient fixés sur la Jérusalem céleste, sur ce que Dieu lui aurait donné. C'est ça, être heureux, c'est toutes ces choses-là. Quand on est converti, on ressuscite. Lorsqu'on meurt, notre corps, il va être enterré. Et la première résurrection, c'est la résurrection du corps. Et il nous est dit que nous ne passerons pas par la seconde mort. La seconde mort, c'est le prochain verset. Mais c'est tous des bénédictions que Dieu nous donne pour que nous puissions être heureux. Et toutes ces choses-là, nous devons les vivre aujourd'hui. La seconde mort, hein, c'est quoi? C'est la mort éternelle. La mort éternelle. Nous sommes ressuscités éternellement pour Jésus-Christ et tous les autres, ils vont passer par la seconde mort. Qui c'est qui va passer par la seconde mort? Au grand trône blanc, tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur. Ils seront envoyés, ils seront châtiés dans ces lieux que Dieu a préparés pour les anges et pour Satan. Ils iront le rejoindre et c'est là qu'ils subiront une mort éternelle. Mais pour nous, ils passeront outre la seconde mort. Pourquoi? Parce que nous avons Christ dans notre cœur. C'est comme ça qu'on est heureux. Et c'est ça que les seigneurs... Il nous dit d'en prendre compte. Et il nous a dit, vous êtes un peuple choisi, il nous a dit dans Pierre 2,9. Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons régner. Et cela me remplit de joie. Car, et en plus, c'est le Seigneur qui le dit. On peut se dire, mais comment moi, régner, là, je ne sais même pas lire, écrire. Mais le Seigneur, il nous le dit. Tu vas régner. Voilà pourquoi il faut qu'on soit heureux. Dès maintenant, et pas attendre je ne sais pas quoi. Parce que c'est des promesses que le Seigneur, il nous fait. Un autre verset, chapitre 16, verset 15. Je les ai numérotés pour qu'on puisse les lire tous. Hein. Voilà ce qu'il dit, verset 16, verset 15. Non, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Et il y a aussi un autre verset, chapitre 19, verset 9. Il y en a 7, alors je vais vous les lire tous. Hein. Il dit, 19, verset 9, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau ». Heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Et il y en a encore à chapitre 22, 14, qu'il dit, heureux ceux qui lavent leur robe, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par la porte dans la ville. Voilà ici comment être heureux. Ici, on voit, nous aurons part à l'arbre de la vie. Hein? Nous aurons accès au festin et nous avons accès à la ville sainte des dieux. Toutes ces bénédictions-là, le Seigneur, il désire nous les donner. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements. Vigilant. Hein? Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure. Le Seigneur, il dit, voici, je viens. Mais soyez vigilants, car notre ennemi, il rôde autour de nous. Heureux ceux qui ont gardé les vêtements, afin de ne pas marcher nus. Qu'est-ce que c'est qu'il dit à l'église de l'Odyssée, le Seigneur, hein? Tu crois être quelque chose, tu crois accomplir des œuvres, mais tu es nu. Tu n'as rien qui me fasse plaisir. Et aussi, il nous a dit de et ne pas laisser voir sa honte, être nu. Ça veut dire quoi être nu? C'est de ne pas être en communion avec Dieu. Vous en souvenez, Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Mais pourquoi te caches-tu? Il a dit, on est nu. Et c'est vrai qu'Esaïe nous l'a dit, que nos œuvres, ils sont rien devant Dieu. On croit être habillés, et pourtant eux, ils s'étaient habillés. Ils avaient fait des vêtements de feuilles. Ils étaient habillés pour eux. Mais aux yeux de Dieu, ils étaient nus. Voilà pourquoi le Seigneur, il dit, soyez vigilants. Si on est vigilant, on est heureux, parce que nous aurons droit à ces choses-là, à l'arbre de vie, aux noces de l'agneau, et nous rentrerons habillés. Ces trois versets nous parlent de festin, nous parlent de noces, nous parle de l'arbre de vie, de la félicité, car nous serons avec Dieu. Oui, il y aura un retour dans le paradis perdu d'Adam et Ève. Mais avec quelque chose de plus, nous vivrons avec Dieu, constamment avec Dieu. Et en plus, nous aurons cet arbre de vie qui va renouveler pour tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Il va être là. Il nous a dit que du temple des dieux, les arbres, ils vont longer cette rivière qui sort du temple des dieux. Et nous serons là. Nous, comme il nous a dit, nous n'aurons plus soif, nous n'aurons plus faim, nous pêcherons plus. Nous aurons une vie de repos, une vie heureuse. Et c'est ce que le Seigneur il nous dit, hein. Et nous allons participer aux noces. Quelles sont ces noces? L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Une fois que le Seigneur nous a enlevés, une fois qu'il a ressuscité nos corps, il va s'unir à notre âme. Et c'est alors que le Seigneur il va nous présenter devant le Père, irréprochable. Et c'est alors que nous allons être assis à la droite de Dieu en tant qu'épouse de Jésus-Christ. Car si vous appartenez à l'Église de Dieu, à l'Église de Jésus-Christ, vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Et nous serons assis à la droite de Jésus-Christ. C'est ça les noces. Nous allons fêter le mariage avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. Il va être notre époux. Le Seigneur est plein de grâce, vous savez. Je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle ami. Mes frères. C'est ça que le Seigneur, de grâce en grâce, nous donne. David, ma coupe déborde. Voilà, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, mais tu n'arrêtes pas. Ma vie, c'est une coupe. Tu l'as remplie. David, il dit, ma coupe déborde. Toutes ces grâces, Seigneur. Voilà. Et notre vie, il doit déborder de joie. Voilà pourquoi c'est très important. Et encore, il nous a dit, nous avons accès à cette Jérusalem céleste. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, Jérusalem céleste? Lisez Apocalypse 22. Aucune ville, il n'a jamais existé et n'existera jamais comme cette ville. Jean, le pauvre, excusez-moi, je dis les pauvres, lorsqu'il l'a vue, il y avait tellement de beauté qu'il a essayé de la décrire à sa façon, quoi, comme avec les mots qu'il croyait, qu'il connaissait, quoi. Mais c'est la ville que Dieu il a préparée pour son épouse. Et si nous appartenons à Christ, nous allons rentrer dans cette ville. Et cette ville, elle sera toute à nous. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous dit heureux. Hein? Que toutes ces perspectives, elles sont merveilleuses. Elles ne sont pas merveilleuses pour vous? Mais oui, ils le sont. Hein? Donc, il faut rester ferme et attaché à cela. Et c'est alors que nous serons heureux, comme on dit. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons vu un petit aperçu du ciel, avec toutes ces bénédictions pour être heureux. C'est un petit aperçu qui peut nous faire du bien. Oui, c'est super. Et tant mieux. Quelqu'un dira, tant mieux pour moi, je suis sauvé, je vais y participer, je vais être là. Mais voilà, c'est aussi être un peu égoïste de penser ça. Pourquoi? Car tout autour de nous, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas cette connaissance-là. Et c'est à nous de faire profiter aux autres aussi, en leur parlant de toutes ces bénédictions que le Seigneur a préparées pour ses enfants, pour que nous soyons heureux. Et alors, ce que le Seigneur il nous donne, il faut le partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Et en faisant cela, nous préparons le retour du Seigneur. Nous préparons ce moment où nous allons enfin rencontrer celui qui nous a sauvés, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a tout fait pour chacun de nous. Et nous pouvons nous dire, oui, heureux. Pourquoi? Parce que Jésus m'a sauvé. Parce que Dieu m'a préparé un avenir. Heureux parce que je vais vivre toutes ces choses-là. Pas maintenant, mais je les vivrai. Aujourd'hui, je suis ici-bas sur cette terre. Peut-être encore une fois que je passe par des moments difficiles, par des peines, des souffrances. Mais je sais, comme les cantiques, mais je sais. Hein? Vous en souvenez, ce cantique. Mais je sais que Jésus est là. Mais je sais qu'un jour, je vais monter au ciel. Mais je sais que toutes ces choses-là, ils passeront ce qu'on vit aujourd'hui. Et ça va être le bonheur. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous dit heureux. Il y a Lord Byron, il a dit à propos du bonheur, il dit, pour connaître la joie, il faut la partager. Pour connaître la joie, il faut la partager. Le bonheur est né jumeau, pas seulement pour moi, mais il faut la partager. J'ai la joie, j'ai cette assurance que je suis heureux. Partageons toutes ces choses-là. Car le Seigneur, il nous a sauvés pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Que nous sommes la vraie façon d'être heureux, c'est de suivre ce que le Seigneur nous dit. Et la seule chose que nous devons faire avec ces choses-là, c'est les partager avec ceux qui encore, ils n'ont pas eu cette grâce de pouvoir partager la connaissance de Jésus-Christ. Que le Seigneur, il puisse nous conduire et que nous soyons des porteurs, comme le mot même le dit, que nous soyons des ambassadeurs pour Christ. Pas pour nous prêcher nous-mêmes, mais pour prêcher celui qui vraiment il mérite toutes ces choses, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.